Es como todo, hermano. Es como todo, es como todo, como todo, como todo. Y usted, como todo. Chopa. Yaron. Oui, c'est parti. Donc, je disais, on va reprendre. Bonjour à tous et bienvenue à notre étude quotidienne sur, cette fois, Parashat Shavua. Parashat est mort, Rabotai. Mes amis, Parashat est mort. On pourrait se poser la question, dans le livre de Vayikra, qui a pour objectif de nous faire arriver à la Kedusha, eh bien, on aurait pu se dire, bah, finalement, ça y est, à la fin de la paracha de Kedoshim, on a reçu toutes les instructions pour arriver à la Kedusha. Donc, à quoi ça sert de continuer le livre? Pourquoi ne pas s'arrêter maintenant? En quoi la paracha de Emor et Behar Bechukotai, qu'on ne va pas traiter aujourd'hui, mais un petit peu quand même, en quoi, eh bien, ces parachotes sont utiles? Eh bien, on va se concentrer sur la paracha de Emor, évidemment, ce matin. La paracha de Emor est en fait divisée en deux parties. La première partie parle des Kohanim et la deuxième partie parle des fêtes. Alors de quoi parlons-nous? Je reviendrai à la fin de notre étude sur justement pourquoi est-ce qu'elle est là, mais je voudrais rentrer dans les deux sujets qui nous intéressent, les deux sujets de la paracha, les Kohanim d'un côté, les fêtes de l'autre. Abotai, quand on ouvre la paracha, on doit se poser une question. Une question fondamentale. Vayomer Hashem el Moshe est mort el Kohanim. Et donc Dieu dit à Moshe, tu diras, tu dois dire au Kohanim. Jusque-là, pas de problème. C'est tout à fait naturel. Très souvent, Dieu dit à Moshe de dire aux autres. Pas de problème. Est mort el Kohanim. Donc il va certainement y avoir des choses à dire au Kohanim. Donc on nous dit, est mort el Kohanim bene Aaron, dit au Kohanim fils de Aaron, ve amarta aleem, et tu leur diras. Alors effectivement, après le Ve'amarta Aleihem, il y a toute une liste de choses qu'il faut leur dire. Mais le problème, c'est alors à quoi ça sert le mot « est mort et la Kohanim » S'il y a marqué juste après « et tu leur diras », pourquoi tu dis « dis-leur et tu leur diras » Ben, dis-leur ou tu leur diras, pas besoin des deux. Et donc en fait, s'il y a marqué « est mort » d'un côté et « Ve'amarta » de l'autre, eh bien c'est que « et là il y a quelque chose à dire » Et là, il y a quelque chose à dire. Alors, pour ce qui est du Ve'amarta, ben, c'est toute la liste de halakhot propre, de lois propres au Kohanim. Donc, ça, ça va être bien déterminé. Donc, ce qui m'intéresse, c'est le fameux Emor. Qu'est-ce que c'est Emor? Qu'est-ce qu'il faut leur dire à ce moment-là? Eh bien, voilà, les amis. Il y a marqué Emor el Kohanim. Bene Aaron. Qu'est-ce qu'il faut dire au Kohanim? Il faut leur dire qu'ils sont Bene Aaron. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont bénis à Aaron? Tu dois d'abord faire prendre conscience au Cohen que d'abord et avant tout, il est le fils de Aaron. Toute sa prestance, toute son Kedusha, lui vient du fait qu'il est le fils de Aaron. Et donc, ben, il doit être Raoui, il doit mériter ce titre de fils de Aaron. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Là, on va passer toute la première partie de la paracha à nous expliquer. Qu'est-ce que c'est que la dimension des Kohanim? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Qu'est-ce que... Pour qu'on comprenne comment les Kohanim font le lien entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu. Que les choses soient bien claires. Dans le judaïsme, le Kohen n'est pas supérieur au reste du peuple. Absolument pas. Le Kohen est un serviteur du peuple. Le Kohen a pour rôle de faire le trait d'union entre Am Israël et Dieu. Il est d'un côté l'envoyé de nous et de l'autre côté l'envoyé de lui. Il est, nous dira le Talmud, « Shluché d'Idan ve Shluché d'Erachamana » autant notre envoyé que le sien. En d'autres termes, le Kohen n'est pas sur un piédestal parce qu'il est meilleur que moi. Il est, moi je décide de le mettre sur un piédestal, la Torah le met sur un piédestal pour qu'il puisse faire la connexion. Et c'est de cette connexion dont il est question. Pour que cette connexion soit possible, eh bien, la pire des choses serait que le Kohen se la pète, que le Kohen se pense supérieur. Et c'est la raison pour laquelle, d'abord et avant tout, sache que si tu veux être un vrai Kohen, tu dois être béné à Aaron. Aaron était Ohev Shalom, Rodev Shalom, Ohevet Abriot, Omekarvan la Torah. Aaron était d'abord et avant tout un homme du peuple, était d'abord et avant tout un homme proche de ce peuple qu'il représentait. Le Kohen, s'il veut pouvoir véritablement remplir son rôle, eh bien, il n'a pas le droit de se sentir supérieur. Moi, je le place à un niveau qui n'est pas le mien. Mais si lui pense qu'il est à un niveau supérieur à moi, alors il ne remplira pas son rôle. Comprenez bien de quoi il s'agit. D'après la halakha, lorsque je suis dans une synagogue et que je dois faire monter à la Torah, eh bien, on fait monter d'abord un Kohen, à une condition, que ce Kohen soit apte. Alors que c'est apte, aujourd'hui, il n'y a pas de Beit HaMikdash, donc on veut qu'il soit Talmid Chacham. Mais d'après la halakha pure et simple, Shulchan Aruch, s'il y a dans la synagogue un Kohen à Maharetz, qui n'y connaît rien à la Torah, et il y a un Talmid Chacham à côté, eh bien, on fera monter en premier le Talmid Chacham et pas le Kohen. Et c'était ce qui se passait dans la synagogue du Rav Ovadia Yosef. Rav Ovadia Yosef montait en premier. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Le reste des communautés ont décidé de continuer à donner le kavod au Kohen et de le faire monter en premier. Il a fait merde. Mais ça montre bien que on le met sur un piédestal, mais lui n'y est pas. Aujourd'hui, les Kohanim, qui avaient pour rôle de faire le lien avec la Kadosh Baruch Hu derrière, par l'intermédiaire du Beit HaMikdash, mais aujourd'hui, leur rôle est un petit peu amoindri. Il a été récupéré, si vous voulez, par les Rabbanim. Aujourd'hui, le Rabbin a pour rôle entier d'enseigner la Torah et donc de relier à Israël à Kadosh Baruch Hu. Et il y a une phrase extraordinaire que le Rav Yehuda Léon Ashkenazi Manitou disait. Il disait, la pire chose pour un rabbin, c'est qu'il se prenne pour un rabbin. Je répète, la pire chose pour un rabbin, c'est qu'il se prenne pour un rabbin. C'est-à-dire qu'il pense que parce que les gens lui font du kavod parce qu'il est rabbin, eh bien qu'il pense que le kavod lui est dû à lui. On retrouve ça dans des histoires qui sont racontées au nom du Rav Mordechai Eliyahu, qui un jour, son chauffeur, qui l'accompagnait à un endroit particulier, machin, se disait, mais c'est incroyable, en fait, on me fait du kavod, mais ce n'est pas pour moi le kavod, c'est parce que je suis le chauffeur du Rav Eliyahu. Si j'étais tout seul avec ma voiture, personne ne me ferait du kavod. Et donc, il pensait que le kavod était dû au Rav Eliyahu, jusqu'à ce que le Rav lui-même lui explique, devant tout le monde, devant l'assistance où il était, qu'en fait, le kavod n'est pas pour lui. Le kavod est pour la Torah qu'il enseigne aux autres. Ce n'est absolument pas pour lui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous savez, dans la suite de des halakhot qu'on va donner sur les Kohanim, eh bien, on a une halakha qui est très particulière. Les habits des Kohanim, on le connaît, on l'a vu dans la paracha de Tetzavé. Le Kohen, quand il sert au Beit HaMikdash, il a des habits particuliers. Hein, et encore plus, le Kohen Gadol. Ces habits ont un rôle. Les chavod ou le tifaret. C'est-à-dire, pour jeter un espèce de grand... pour faire l'ambiance, quoi. Pour se la péter. Pas que le Kohen se la pète, mais pour que quand les gens ils regardent le Kohen, ils disent... C'est-à-dire, tu vois un homme comme ça qui avait vêtu de très lettres argaman, de l'or et tout ça, machin. C'est ça le but du jeu. Puisqu'il représente quelque chose, alors il se doit que son habit représente sa fonction. Par contre, d'après la halakha, lorsque le Kohen sort du Beit HaMikdash, il n'a pas le droit de porter ses habits de Kehuna. Il n'a pas le droit de sortir du Beit HaMikdash avec ses habits de Kohen, ni Kohen normal, ni Kohen Gadol, évidemment. Lama. Eh bien, parce qu'il ne faudrait pas qu'il commence à s'habituer à ses habits comme ça, qui lui donnent un prestige incroyable. Ma pitom. C'est un commentaire comme ça, un commentaire incroyable de Rabbi Chaim de Volozhin, qui explique comme ça que lorsque les Kohanim sortent du Beit HaMikdash, ils n'ont pas le droit de porter leurs habits. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils pensent que l'honneur qui leur est fait est l'honneur dû à leur prestance. Les habits sont là pour le Mikdash. Bon, quand on lit le Prime de Volozhin, on sait qu'il va faire une référence très claire au premier Admurim Chassidim qui commençait à s'habiller de parures incroyables. Et il y avait ici un ressentiment énorme de la part de ce chef des Mitnagdim, disant, comment ça, ils se la pètent les rabbins chassidiques à se s'habiller comme ça. Finalement, on a compris qu'en fait, non, pas du tout. Ils représentaient exactement le même état d'esprit. On parle du rabbi de, de Rougine, qui justement avait pris sur lui la malchoute, et donc il s'habillait avec des bottes en or, plaqué or, machin, ce que tu veux, des habits d'apparat incroyables, mais d'un autre côté, il ne mettait pas de semelle dans ses chaussures, dans ses bottes, si bien que ses bottes lui écorchaient les pieds tous les jours. Et il disait que c'était pour qu'il se rappelle bien chaque soir quand il enlève les bottes, et chaque matin quand il les met, que les bottes, c'est juste parce qu'il veut représenter la Torah d'Akadosh Baruch Hu, mais pas que lui se sente au-dessus des autres. Et on peut faire référence à cela, évidemment, j'ai dit, il parle des Kohanim, mais je dis qu'aujourd'hui, ceux qui représentent cela, ce sont les Rabbanim. Il ne faudrait pas que le Rav, à qui on fait du Kavod, pense que c'est pour lui le Kavod. Chas v'shalom. Chas v'shalom. C'est pour la Torah qu'il enseigne. Tout simplement. Et donc, eh bien, ça fait référence à un texte du Talmud dans le traité de Shabbat qui dit quelque chose d'assez incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais particulièrement dans le monde, on va dire le monde d'Atil Oumi, et j'en suis un grand représentant dans ce que je vais dire là maintenant, certains diront que ce n'est pas bien, mais je suis assez d'accord d'ailleurs aussi avec eux, mais bon, nous, vous allez voir de quoi je parle. La Gemara nous dit qu'il y a une grande différence entre les rabbanais Bavel et les rabbanais Eretz Israël. Les rabbins de Babylone face aux rabbins d'Eretz Israël, je parle à l'époque du Talmud. Quelle était la grande différence? Eh bien, nous dit le Talmud, Rabbanei Bavel ayum metsuyanim bevigdehem. C'est-à-dire que les rabbins de Babylone, ils avaient des habits d'apparat, des habits de rabbin. Tu sais, le costume, le chapeau, tout ça. Metsuyanim bevigdehem. Alors que les rabbanei Eretz Israël, ils s'habillaient comme le vendeur de cornichons du chouk. Lama, dit Agmara, parce que Rabbanei Eretz Israël, shmam maspik beyadam. Leur nom est suffisant pour eux. C'est-à-dire, les gens savent, le rabbin d'Eretz Israël, il n'a pas besoin d'être habillé comme un grand dirigeant, comme un mec super mechoubad. Tout le monde connaît la grandeur du bonhomme. Donc, il n'a pas besoin de s'habiller de manière particulière. Et on peut voir ça, vous savez, vous avez deux rabbins, même âge, j'ai envie de dire, compétence, ce que tu veux, même taille de barbe. Seulement, tu en as un qui est costume, trois pièces, trop classe et tout, gros chapeau bien taillé, bien fondu. Et l'autre qui est habillé avec une chemise, pas sale, hein, évidemment, mais une chemise normale, à carreaux, un pantalon et des sandales, avec des chaussettes, t'imagines? Qui on va écouter d'abord? Point. C'est-à-dire, l'homme chané, ce que tu dis, il y a déjà 10 points d'avance pour celui qui est bien habillé. Alors que finalement, l'habit ne veut pas forcément dire que tu vas dire des choses intelligentes. Alors, je ne suis pas forcément d'accord moi-même. C'est-à-dire, moi-même, je ne m'habille pas forcément, à part le Shabbat où je suis en costume, sinon je ne suis pas habillé la folie. Même si je pense que peut-être qu'il faudrait changer, je ne sais pas. J'ai du mal entre ce que je pense et... Il y a là et puis il y a là, dans les tripes. Tu sais, Beret Israël, tu es à la maison. Diagmara, tu es à la maison. À la maison, tu ne t'habilles pas la vie. Mais quand tu es en route, ça arrête. Alors, tu as besoin de montrer. Et puis, non seulement ça, mais n'oublions pas que les rabbinim en route, ça arrête, ils avaient aussi des rapports avec les goyim qui géraient leur commune, enfin, dans les communautés où elles étaient. Le maire, le président, machin. Donc, tu es obligé de montrer qu'en tant que chef de la communauté, tu es méroubad comme les goyim. En Eretz Israël, t'es à la maison. Regarde le Parlement en France, regarde la Knesset. Nous, c'est pas étonnant de voir un mec arriver en chemise manche courte à la Knesset. Alors que c'est pas possible d'imaginer un député ou un sénateur habillé comme ça en France. Yesh bezé machou. Mais ce qui est le plus important dans l'histoire, c'est quoi? Eh bien, c'est qu'il faut comprendre que pour qu'il y ait le trait d'union, il faut qu'il y ait la proximité. Le Kohen, s'il veut pouvoir faire le trait d'union avec le Ham Israël, il faut que ce Ham Israël se sente proche de lui. Et c'est vrai que des fois, la distance mise par l'apparat, eh bien, fait que des fois, je ne peux pas me lier à lui. La chachouv meod, que le Rav ou que le Kohen, on parle du Kohen dans la Torah, évidemment, soit d'une proximité, on va dire évidente, avec l'âme Israël. Parce qu'il n'est pas supérieur. Il a un rôle à jouer, mais il n'est pas supérieur. Et il faut bien qu'il le fasse comprendre à tous. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'arrêter sur les habits. Tu peux être très proche de l'autre et toujours être habillé classe. Ce n'est pas un problème. C'est dans le comportement et dans l'attitude, bien sûr. Mais c'est quelque chose de fondamental. Puisque le Cohen doit être le descendant de Aaron. Et Aaron, il n'y avait pas ces barrières entre lui et le peuple juif. En d'autres termes, Rabotai, si tu veux marcher en tant que Cohen, il faut que ce soit fait par amour. Il faut que tu aies un amour inconditionnel pour ton peuple. Pareil pour le rabbin qui est en train d'enseigner la Torah. Comment est-ce qu'il peut enseigner la Torah à des gens qu'il déteste? Il n'a pas le droit. Et donc, il est évident que notre Cohen, notre rabbin, doit être d'abord en proximité totale. Oui, mes sandales, chaussettes aussi. Ouais, j'entends bien la réflexion. Mais en même temps, c'est une question de climat, j'ai envie de te dire. T'as jamais vu personne en sandales quand tu étais en France parce qu'il pleut, il pleut 10 mois sur 12. Donc forcément, mais n'oublie pas qu'on vit dans un pays où, je veux pas dire, mais bon, sandales, chaussettes, ça te dérange. Mais tes ancêtres, ma chère Laurence, parce qu'à mon avis, tu ne viens pas vraiment, te connaissant un petit peu, tu ne viens pas vraiment de la Pologne du Nord, tes ancêtres, je te rappelle, qu'ils se baladaient en djellaba et en babouche. Donc, tout dépend de l'endroit où on est, de la culture où on est et du climat, bien sûr. Je veux dire, c'est bien beau de s'habiller en streimel quand on habite en Pologne. C'est quand même un petit peu plus compliqué d'assumer le streimel à 40 degrés au mois d'août en Israël. Donc, elle m'a la saute. Donc, il est évident que ça, c'est la première dimension. Mais on a dit, dans la paracha, il n'y a pas que les Kohanim. Il y a également la grosse masterpiece de la paracha. Eh bien, c'est tout simplement les Moadim. Ce sont toute la liste des fêtes qui sont mises en avant dans notre paracha. Et donc, les Moadim, eh bien, il va falloir réfléchir deux secondes. La liste des fêtes, elle peut se subdiviser en trois parties. Quand on regarde le chapitre donc Kaf Gimel, le chapitre 23 du livre de Vaïkra, on va faire la liste de toutes les fêtes. On va voir que la première d'entre elles, c'est le Shabbat. Le Shabbat est la première des fêtes de la liste. Après le Shabbat, Yom Tov. Après le Yom Tov, on va voir. Mais si je reprends le texte donc de la paracha, eh bien on peut voir « Vaidaber Hashem el Moshe lemor, daber el bene Israël va'amarta aleem, moade Hashem asher tikreu otam mikrei kodesh, elehem Moadai. Shabbat est très différent du reste des fêtes. Pourquoi ? Parce que Shabbat, ça tombe tous les 7 jours. Et ça ne change rien ce que tu penses pas, ça tombe tous les 7 jours. Tu ne peux pas changer le timing de Shabbat. Alors que Yom Tov, que ce soit Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Yom Kippourim, qui décide quand ça va tomber ? Bien, c'est Am Israël qui décide. C'est-à-dire qu'Am Israël décide quand c'est Rosh Chodesh et donc de ce fait, il décide quand ça sera Pessah. Eh oui ! Rabotai, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que Shabbat, ça vient directement d'en haut. Mais à Yom Tov, il y a une participation de l'homme dans la Kedusha. C'est pour ça que quand on parle de Shabbat, on dit Baruch Ata Hashem, Mekadesh à Shabbat. Mais pour ce qui est des fêtes, on dit Mekadesh Israël Ve'azemanim. C'est-à-dire que c'est bien sûr lui qui nous a dit que Pessah c'était le 15 Nissan. Mais qui va déterminer quand c'est le 15 Nissan ? Am Israël. Il y a une participation entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Et donc j'ai dit, lorsqu'on prend la liste des fêtes, donc on a Shabbat, après évidemment on va trouver Pessah, après on va parler de Sfirat HaOmer, après on va parler de Shavuot, bon, dans l'ordre j'ai envie de te dire. Lorsqu'on a fini de nous parler de Shavuot, bah regardez ce qui se passe. On nous parle de quoi ? Vaidaber Hashem. Donc on a terminé de parler de Shavuot. Et qu'est-ce qui se passe juste après ? Eh bien, on aurait dû amener. Ça, je prends le verset exactement. Iné. C'est ça. Après, donc, Shavuot, donc on va te parler de Rosh Hashanah, de Yom Kippourim. dans l'ordre ce qu'il faut. Mais finalement, une fois qu'on a terminé donc Sukkot, Shivat Yamin, Tikrou Ishel Hashem, Be'om Hashemini Kra Kodesh Yelachem, Vikraptem Ishel Hashem, Atzeret Hi, Kol Merchet Avoda Lo Ta'asu. Donc on a fait la liste de toutes les fêtes que Dieu a lancées. Et là on nous dit El Moadé Hashem, Asher Tikrou Ota Mikra Kodesh, Shuv, La'akriv Ishel Hashem, Ola Mincha Ozevar, Unzachim, Devar Yom Beyomo. Ben, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsqu'on a terminé la liste des fêtes, on nous dit la chose suivante. Vaïdaber, le verset qui vient conclure la liste des fêtes, c'est Vaïdaber Hashem, au chapitre donc Kafdalet, verset Aleph, Vaïdaber Hashem, Esrasra, au verset Kaf, même Dalet, du chapitre Kafgimel, le verset de conclusion, donc de ce chapitre des fêtes. On nous dit, Vaïdaber Moshe et Moadé Hashem El Bene Israël. Mais c'est Vaïdaber Moshe et Moadé Hashem. Genre, c'est Moshe qui a expliqué les Moadé Hashem. Mais non, c'est Vaïdaber Hashem El Moshe les morts, on a vu au début de la liste. Eh bien, cela vient nous expliquer tout simplement que Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe la force de donner au peuple juif de faire de nouvelles fêtes. C'est-à-dire qu'on a la liste que Dieu il a prononcée. Mais il y a d'autres fêtes que Moshe va pouvoir, lui et ses descendants, mettre en place. C'est quoi ces fêtes? Il semblerait que la Torah nous dise, voilà les fêtes que moi je te donne, qu'on appelle Deoraita. Mais sache que vous, Am Israël, vous avez la force de décréter de nouvelles fêtes plus tard. Si on regarde bien, combien de fêtes Deoraita nous avons? Eh bien, nous avons Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah et Yom Kippourim. D'accord? Et on nous dit qu'il y a d'autres fêtes que Moshe va pouvoir mettre en place, Moshe et les Bnei Israël. Et tout d'un coup, la Torah nous donne des infos sur des choses très bizarres. Le chapitre Kaf Dalet a l'air complètement pas à sa place. Puisqu'on a fait la liste des fêtes, et là on te dit... Ben voilà, maintenant on va prendre tout le chapitre Kaf Dalet pour parler de trois sujets bizarres. C'est quoi les sujets bizarres? Eh bien, tout d'un coup, on va te parler de la menorah. Et comment est-ce qu'on allume la menorah? Ensuite, on va te parler de l'Echem Apanim, de Shulchan l'Echem Apanim, des pains, la table des pains qu'on devait remplir au Beth Amikdash. C'est très bizarre. On t'a fait la liste des fêtes. Ensuite, on t'a dit que Moshe, il a reçu la force, lui, de transmettre au peuple juif de décréter d'autres fêtes, ce qu'on va appeler des fêtes des Rabbanan. Et tout d'un coup, eh bien, on nous parle de la menorah et de l'Erev Apanim. Ben oui, vous comprenez déjà vers où je veux en venir. Le remez d'une fête qui va tourner autour de la menorah, c'est Hanouka. Le remez d'une fête qui va tourner autour de la shulchan, c'est-à-dire des festins, du shefa, et qui en plus va être qualificatif par le fait qu'il y a 12 pains, donc c'est une fête qui arrivera le 12e mois, et bien on a ici le remes de Purim. Sauf que la Torah ne s'arrête pas là, et elle nous raconte une autre histoire. L'histoire de Amekalel, de cet homme qui est perturbé dans son identité, parce qu'il est d'un côté le fils d'un Égyptien, mais de l'autre, le fils d'une juive. Il est donc perturbé dans son identité. Est-ce qu'il est juif ou est-ce qu'il est égyptien? Égyptien à l'époque, ça veut dire occidental, c'est-à-dire membre de la culture mondiale. Il ne sait pas où il est. Est-ce qu'il est comme ci? Est-ce qu'il est comme ça? Pas évident. Et donc, comme il a un problème identitaire, ou Mekalel, c'est-à-dire que le langage chez lui a plus toutes sortes de kdusha, et il est tombé dans la chutzpa, avec les Kalel Mijouz et Chutzpa. Et donc, cela fait référence à une fête qui viendra avec la Chutzpa dans une génération où les gens seront perturbés au niveau de leur identité. Nounou, eh bien, c'est la fête qui s'appelle Beikvot Meshicha Chutzpa Yazge. La fête que le Talmud dans le traité de Sota nous dit que à l'époque messianique, eh bien, la Chutzpa va se relever. Vous avez compris qu'il s'agit ici de Yom HaAtzmaut. Alors, que faire? Il y a une quatrième fête des Rabbanan. Eh oui, il y a Hanouka, Purim, Yom HaAtzmaut, mais il y en a une quatrième qui s'appelle Yom Yerushalayim. Yom Yerushalayim, c'est que Neged, Rosh Hashanah, bien évidemment. Et pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, c'est le Rosh Hashanah de Melchei Umot HaOlam. Face à cela, eh bien nous avons la fête où nous sommes revenus à la ville de la Malchut d'Israël, Yerushalayim. Et face à Yom HaKippourim, face à Yom HaKippourim, il y a une autre fête qui doit être la fête ultime, celle qui en fait nous fera passer dans le huitième jour. En fait, Rabotai, de quoi nous sommes en train de parler? Si on remarque bien, donc, la paracha de Emor parle de deux sujets, Kohanim et Moadim. Les Kohanim nous servent à faire le lien avec Akadosh Baruch Hu, ils sont donc Anashim Kdoshim. Alors que les fêtes, c'est le moment où je me lie à la Kedusha. En d'autres termes, la paracha de Emor nous donne deux des trois piliers pour pouvoir être Kadosh, c'est-à-dire être apte à rencontrer le Créateur. Pour ça, il faut Anashim Kdoshim, les Kohanim qui nous permettent de nous rattacher, Vezmanim Kdoshim. C'est Kdushat Adam et Kdushat Zman. Il y a Femeod. Donc on est bon. Sauf que vous savez bien que si j'appelle ma femme et que je lui dis « On se retrouve à 2h !» il manque un truc. On ne pourra pas se retrouver si je lui dis « On se retrouve à 2h !» C'est-à-dire, j'ai la personne, c'est bon, parce que si je n'ai pas la personne, je ne retrouverai personne. J'ai le moment, si je n'ai pas le moment, je ne retrouverai personne. Mais vous comprenez bien que pour que la rencontre ait lieu, il faut également une longitude et une latitude. Il faut un endroit. La paracha de Emor nous donne les deux premiers piliers de la rencontre avec Dieu, Adam et Azman. Il nous faudra la paracha de Behar la semaine prochaine pour comprendre qu'il faut le troisième pilier, Kdushat HaMakom. C'est où que se passe la rencontre. Et dans la paracha de Behar, on parlera de toutes les lois relatives à la Kdusha de la terre d'Israël. La paracha de Emor, c'est donc l'amour des Kohanim pour leur peuple. La proximité qu'ils ont avec leur peuple qui permet de relier Am Israël en son entier à la Kedusha d'Akadosh Baruch Hu. Les Moadim nous permettent de savoir quand Akadosh Baruch Hu a envie de se relier à nous. Et la suite, arrivera la semaine prochaine. À bientôt!